Chapitre 4. Si la jeune fille n'avait point encore visité ses parents, ce n'avait pas été faute d'y songer. Mais l'aïeule était tombée malade assez gravement, et malade, elle était, comme beaucoup d'infirmes, d'une exigence extrême. La solitude lui faisait horreur. Il avait fallu la soigner, la veiller, ne jamais la quitter. À peine laissait-elle désirer sortir, le temps d'aller acheter des provisions, un peu au-delà de l'octroi. Comment eût-elle permis une course à l'hospice qui, vu la longue distance, eût pris toute une matinée? Désiré avait dû attendre et les semaines s'étaient écoulées. La lettre de sœur Dorothée arriva en pleine convalescence de la malade et ces deux causes combinées, instance d'un côté, santé renaissante de l'autre, décidèrent l'aïeule. « Va, ma petite, dit-elle, sois le moins longtemps possible, tu me rapporteras des nouvelles d'Honoré. » Elle ne pensait guère à sa bru, ni autrefois, ni à présent. Honoré seul l'occupait. Désirée partit aussitôt. Elle était contente à la pensée de revoir les siens, contente aussi d'être libre et de la beauté du jour. Il faisait un temps gris-perle, si léger que tous les rayons le traversaient, un de ces ciels de fin de mai qui habituent les fleurs au grand soleil d'été. Les stellaires étoilaient les talus de la banlieue. Des deux côtés de la route, quand Désiré passait, des moineaux perchés sur les toits, sur les vieux murs, s'envolaient en troupe, avec un petit cri d'appel si gai, si vif, qu'il semblait à Désiré que son cœur s'envolait aussi. Il n'allait pas d'ailleurs bien loin, pas plus qu'eux. Sa nature n'était pas rêveuse, mais plutôt agissante et vaillante. Elle songeait à des commandes qu'il fallait livrer dans la semaine, à une lessive qu'elle aurait bientôt, à un semis de volubilis qu'elle avait fait le long de la maison et qui commençait à lever, mais surtout au moyen d'apprendre à tresser le rotin et l'osier, maintenant que son métier d'enfance périssait. Elle avait mis sa robe bleue, un col blanc attaché par une broche de cornaline et un chapeau pour un si long voyage, composé d'un seul ruban bleu chiffonné sur du tulle noir. C'était ce qu'elle avait de plus beau. Une autre aurait trouvé la toilette bien pauvre. Mais elle s'en inquiétait peu, n'ayant souci, pour le moment, que de plaire à ceux qu'elle allait voir. Elle était sûre d'y réussir. Et, ainsi faite, songeant pour le résoudre aux problèmes toujours compliqués de sa vie de travail, elle marchait sans se presser sur la route où des brises folles, soufflant au travers des haies, s'amusaient à faire tourner des pincées de poussière. Avant d'entrer à l'hospice, Désiré s'arrêta devant le moulin, un peu lasse, un peu rouge, afin de reprendre haleine et de relever ses cheveux, dont la masse trop lourde, détachée par la marche, lui tombait sur la nuque. La route, à quelques pas de là, finissait. Un tertre au gazon pelé par le pied des mulets portait le moulin blanc. Les quatre ailes viraient d'un mouvement puissant, avec un doux gémissement de bois qui plie, comme il en sort des mâts de navire ou du joug des bœufs en labour. Le vent montait de la rivière, et Désirée était charmante, tête nue, la taille cambrée, les bras écartés pour nouer ses cheveux d'or. C'était précisément à quoi réfléchissait un jeune meunier qui, sans qu'elle l'aperçût, s'était accoudé à la lucarne du moulin. De tout temps, les meuniers ont passé pour philosophes et méditatifs. Je parle de ceux des hauteurs, leur métier les y porte. Ils tiennent de l'ermite et du guetteur de phare. Une partie de leur vie se passe à attendre, l'autre à laisser travailler le vent. Ils voient de grands horizons et les choses petites au-dessous d'eux. Quand leur nature n'est point rebelle, les meuniers ont beau jeu pour songer. Celui-là ne sortait pas de la tradition. Son large feutre enfariné coiffait une assez belle tête de garçon, un peu molle mais intelligente, des yeux bruns, des joues sans teint et une bouche légèrement relevée, dont le visage prenait un air de goguenardise, signe distinctif de l'espèce. Il s'avança encore un peu dans la lucarne et dit « Vous n'avez pas l'air bien pressé, mademoiselle !» Ce sont là de ces phrases banales par lesquelles, dans le peuple, les inconnus se tâtent et manifestent l'intention d'engager un brin de causerie. Elle le regarda, surprise, et ne lui trouvant pas les yeux trop hardis, répliqua « Ni vous non plus à ce que je vois !» « Que voulez-vous » reprit-il. « Quand le moulin va, les meuniers n'ont rien de mieux à faire que de regarder les filles qui passent. C'est un joli métier. Même quand ça va le mieux, on a de la liberté. »«
Tous les métiers ne sont pas de même, » fit Désiré en soupirant.
Elle renoua la bride fanée de son chapeau et se détourna pour s'en aller.
mais elle lui plaisait évidemment, car il la retint en demandant « Que faites-vous donc ?»«
Pailleuse de chaises, » répondit-elle. « Autrefois, c'était bon. Nous gagnions notre vie. Et puis, ça s'est perdu. Mon père a été obligé de se mettre à l'hospice. Un bon travailleur, pourtant, je vous assure, jamais en retard, point dépensier, tout le monde l'aimait. »
« Il est à Jeanne-Jugand ?»«
Oui, et ma mère aussi, je vais les voir. »«
Alors vous êtes comme orpheline chez vous, mademoiselle Rose. »«
Non, pas Rose, » dit-elle en riant, « Désirée. »
Ils se regardèrent un moment, riant tous deux de la façon drôle dont il lui avait demandé son nom. Elle ajouta,
« Je ne suis pas si seule que vous croyez, j'ai ma grand-mère avec moi. »«
Vous habitez loin ?»
De l'autre côté de la ville, proche l'octroi. Grand-mère est aveugle.
Aveugle, répéta le jeune homme, ce ne doit pas être gai pour vous.
C'est surtout triste pour elle.
Mais alors vous ne sortez guère?
Presque pas.
Le dimanche, n'est-ce pas, un tour à la foire ou bien dans les assemblées?
Jamais, fit Désiré comme si cette supposition l'eût offensé. Je n'y vais jamais.
Elle se mit à rougir, subitement devenue confuse du tour intime que prenait la causerie. Lui, au contraire, montrait ses dents blanches. Il avait l'air tout content.
« Je vous crois, mademoiselle Désirée, et ça se voit bien sans que vous le disiez. Au revoir, donc. »«
Bonsoir, monsieur. »
À peine eut-elle tourné le coin de la haie qu'elle se sentit toute dépitée. S'arrêter ainsi à causer dans les chemins, comment avait-elle fait cela? Et que de choses elle avait racontées en peu de temps, son père, sa mère, l'aïeul, la vie qu'on menait à la maison. Il lui faisait dire tout ce qu'il voulait. Et lui, prudemment, savait se taire. Comme il était adroit pour enjôler les filles, ce garçon. Avant de pénétrer dans la cour, comme elle était cachée par le mur, elle tourna la tête rapidement et jeta un coup d'œil du côté du moulin. La lucarne était vide, toute noire sur le mur blanc.
« Heureusement, pensa Désiré, qu'il avait l'air honnête et que personne ne m'a vu. »
Elle monta les marches du perron et demanda son père. Le Boloche était dehors, au milieu d'un espace découvert et sablé qui s'étendait au bas du champ de seigle. On l'avait pris pour arbitre d'un coup de boule douteux et, courbé, il mesurait avec sa canne la distance contestée. Une dizaine de joueurs, ses compagnons, penchés en cercle, étaient absorbés par l'attrait de cette vérification. Ils se relevèrent tous ensemble et le Boloche aperçut Désiré qui dévalait le long du champ, sa robe bleue frôlant les pommiers nains et la bordure de fraisier hardiment fleurie par-dessous.
« Ma fille, » dit-il.
C'était un événement, ces 20 ans dans un asile de vieillards, cette santé rayonnante au milieu de toutes les décrépitudes humaines. Les camarades de Le Boloche, leurs boules à la main, regardaient venir la jeune fille. Presque tous sans famille, ayant roulé partout sans s'attacher nulle part, isolés d'ailleurs par leur âge et enserrés déjà dans cette demi-mort de refuge que la charité ne peut déguiser complètement, ils respiraient comme un parfum cette apparition qui s'avançait. Tous en étaient réjouis. Elle rappelait à chacun quelques souvenirs chers.
« Elle ressemble à une belle cantinière que j'ai connue, » dit l'un d'eux.
« Si elle avait des cheveux sur le front, ne jurerait-on pas une actrice du café du cours d'Ajot ?» reprit un autre, un ancien marin, dont la mémoire refluait très loin en arrière à la vue de Désiré. Un troisième murmura un nom que personne n'entendit. Sa tête, branlant par saccades, s'abaissa vers sa poitrine, deux larmes tombèrent sur les chiffons de laine dont ses pieds malades étaient enveloppés, et nul ne sut quelle image lointaine de femme ou de jeune fille saluait, à travers les temps, l'émotion de cet abandonné. Ils virent le Boloche s'avancer vers Désiré, passer son bras sous le sien et s'enfoncer dans l'allée qui coupait les champs à mi-côte. Tirés de leur extase, ils s'entre-regardèrent alors les uns les autres d'un air dur. Ils étaient jaloux de l'ancien sergent. Personne ne venait ainsi pour eux. La partie de boule fut laissée là. Le Boloche et sa fille se promenèrent d'abord tous deux dans l'allée. Il était rayonnant. Son bonheur se doublait de la fierté de marcher près d'elle. Il jouissait des étonnements qu'elle provoquait.
Il la considérait comme pour réhabituer ses yeux à chacun des traits de son enfant. « Ah, petite, disait-il, petite, que je suis content, je ne puis vivre sans te voir. » Il ne pouvait dire autre chose. Puis la mère Leboloche vint les retrouver. On monta vers l'hospice, dont il fallut faire le tour, vers le grand verger entouré de murs, qui ne s'ouvrait que par faveur aux parents en visite. Et alors, la conversation s'engagea. Désiré avait dû se mettre entre les deux vieux. Il lui parlait en même temps, chacun de ceux qui l'intéressaient. Les moindres choses du domaine revivaient dans leurs souvenirs avec une merveilleuse intensité de tendresse et de regret. C'est incroyable tout ce qu'un pré, une maison et une pauvre aïeule qu'on a laissée peuvent fournir de questions. Désiré répondait de son mieux. La joie des siens l'épanouissait aussi. Elle n'avait pas le temps de penser à elle-même. Et cependant, chaque fois qu'elle arrivait au détour d'une certaine allée, l'ombre des ailes du moulin, franchissant les murs, accourait au-devant d'elle, l'enveloppait, semblait vouloir l'enlever au passage. Désiré en éprouvait un petit frisson. Elle s'imaginait, bien à tort peut-être, et sans avoir la liberté d'y penser d'ailleurs, que ses grands bras d'ombre l'appelaient et qu'il y avait là-bas, par une fente ignorée du moulin, deux yeux bruns qui la suivaient.